À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Les paradoxes dans l'Évangile », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
De prime abord, nous nous trouvons en présence d'une réalité contradictoire, paradoxale. Cela signifie, au dire de Newman, que nous avons affaire à une réalité riche et profonde, que nous sommes appelés précisément à creuser et à explorer plus avant. Le caractère choquant et déconcertant du paradoxe éveille et stimule l'esprit dans sa recherche de compréhension et d'intelligence. Cela est vrai en particulier pour les paradoxes chrétiens, comme nous l'avons vu à l'émission précédente. Lorsqu'elle nous parle d'un Dieu en trois personnes, ou de l'incarnation, ou de la résurrection du Christ Jésus, notre foi chrétienne nous propose des réalités immenses, inépuisables. Ce ne sont pas là de simples problèmes que nous pourrions placer devant nous, maîtriser et solutionner à coup de raison et de preuve. Mais ce sont des mystères qui nous englobent et qui nous dépassent. Un mystère n'est pas quelque chose d'absurde, que nous ne pouvons pas comprendre, mais quelque chose que nous n'avons jamais fini de comprendre. Ainsi, les mystères de la Trinité, de l'Incarnation ou de la résurrection du Christ, loin d'être dans leur étrangeté même des blocages pour notre intelligence, demeurent, quand nous acceptons de nous laisser ébranler par eux, de vigoureux et féconds stimulants pour notre esprit. Ils nous font comprendre des réalités que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ils nous ouvrent des perspectives inouïes sur notre vie, nos origines, notre identité, notre destinée. Il est merveilleux de découvrir que tous les mystères essentiels de notre foi chrétienne convergent, pour ainsi dire, chacun à leur manière, pour nous dire que Dieu nous aime, qu'il n'est qu'amour, qu'il s'est littéralement donné des mains et des pieds pour nous rejoindre et nous partager en Jésus ressuscité sa plénitude de vie. Le vieux saint Jean, comme pour résumer le cœur de son expérience de rencontre avec Jésus, traçait ces mots de feu dans sa première épître. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. C'est à partir de ces trois derniers mots, résumant le christianisme, que selon Malraux, l'histoire a basculé. Gilbert Cesbron, dans son livre « Ce que je crois », a le commentaire suivant. Comme l'aimant qu'on maintient sous un papier condense et oriente la limaille éparse sur la feuille, l'amour coordonne tous les mystères du christianisme. La définition de saint Jean, Dieu est amour, est l'équation fondamentale. Comme la célèbre formule d'Einstein, E égale MC2 constitue, paraît-il, la clé de l'univers. Ces trois mots, Dieu est amour, fournissent à mes yeux la seule solution à l'énigme de l'humanité. Cette affirmation centrale de notre foi chrétienne, quand nous nous arrêtons à y penser et tentons de l'approfondir, demeure toujours bouleversante, révolutionnaire, explosive. Il faut être un peu, beaucoup prétentieux, nous devons l'avouer, pour parler de Dieu et des choses de Dieu. Qui sommes-nous pour décider de son existence à partir de notre logique et de nos preuves? Sans doute la pureté du cœur, plus que l'intelligence savante, s'impose-t-elle pour nous donner accès au mystère divin? Une des difficultés majeures, probablement la difficulté la plus fréquente dans le domaine de la foi, se trouve dans la coexistence paradoxale entre le Dieu amour et la présence du mal dans le monde et dans l'histoire. Comment réconcilier ces deux réalités qui ne vont pas ensemble? Quel croyant ne s'est pas un jour posé cette question? Personne n'échappe au dilemme, et la question demeure pour beaucoup une pierre d'achoppement. Le mal n'est-il pas un déni de l'existence du Dieu amour? En décembre dernier, un de mes amis me faisait parvenir, avec ses vœux de Noël, des réflexions suivantes. Je nage encore entre l'incroyance et la croyance, et même Newman n'arrive pas à me convaincre. À la messe de minuit, le célébrant déplorait l'année 2005 pour ses désastres naturels, tellement désastreux et coûteux en vie humaine. Or, dans ma petite tête simpliste, je ne comprendrai jamais comment un Dieu bienfaisant, omnipotent et omniscient peut tolérer de telles choses. Si la vie humaine est tellement importante qu'il faut interdire toute forme d'avortement ou de contrôle de naissance, pourquoi laisser périr tant d'enfants aussi innocents que leurs parents? Cette question immense, on se la pose depuis les débuts des temps et dans toutes les religions. Il faudrait évidemment plus d'une émission pour scruter le paradoxe de la coexistence de Dieu et du mal. Nous pouvons du moins fournir ici quelques pistes d'approfondissement en déblayant le terrain et en éclairant les éléments du dilemme. Pour ne pas nous perdre, abordons la question par le biais de la souffrance qui est révélatrice du mal à tous les niveaux de la réalité. Le thème de la souffrance est un sujet de réflexion fort délicat. On ne saurait parler de la souffrance avec le froid détachement du savant devant l'objet de ses recherches. De fait, la souffrance comme telle n'existe pas. Ce qui existe, c'est une personne qui souffre. La souffrance n'existe pas en dehors de soi. Elle est toujours la souffrance de quelqu'un. Elle est toujours ma souffrance. Que faire devant quelqu'un qui souffre? Ce ne sont sûrement pas les beaux discours ou les beaux raisonnements qui peuvent apaiser la souffrance des autres. Il vaut mieux pudiquement, respectueusement, se taire, compatir, soutenir de sa tendresse et de son amour la personne qui se trouve en travail de souffrance. À quel titre pouvons-nous parler de la souffrance des autres? N'est-il pas préférable de réfléchir sur ma propre souffrance, sur celle que je connais d'expérience? Je risque moins d'accabler davantage la personne qui souffre par mes discours. C'est moi, c'est chacun de nous qui a, pour son propre compte, à affronter cette réalité mystérieuse de la souffrance dans laquelle nous sommes tous plus ou moins immergés, de laquelle nous ne pouvons pas nous abstraire. À ce point, une série de questions se posent. Qu'est-ce que souffrir? Qu'est-ce qui se passe quand je souffre? De quoi s'agit-il quand j'expérimente de la souffrance? Que penser, que faire quand je souffre? Je me blesse, je me fais une entorse, j'ai une tendinite, je me brise une jambe, j'ai un infarctus. La souffrance que je ressens alors consiste en une perception désagréable, douloureuse, plus ou moins supportable, soutenable. Cette perception est perception d'un mal, d'un malaise. J'ai mal, j'ai du mal, ça fait mal. La souffrance apparaît donc comme un indicateur, un signe, un signal qui me dit qu'il y a du mal quelque part, que quelque chose va mal, fonctionne mal, ne marche pas bien. Remarquez que je puis également souffrir du mal vécu par les autres, subi par les autres, causé aux autres, à ceux que j'aime, aux enfants innocents, sans défense, à mes frères et à mes sœurs humains. Ce mal peut se trouver, se manifester et se produire à tous les niveaux de ma personne. Ce peut être physique, psychologique, moral ou spirituel. Et selon que le mal se trouve à l'un ou l'autre niveau, la souffrance prend des formes et des intensités différentes. Il y a la douleur physique, il y a la peur, l'angoisse, la solitude, la culpabilité, les détresses profondes, l'impression de vide, d'absurdité de la vie, etc. Face à cette expérience vécue du mal qu'on appelle souffrance, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre, nous pouvons réagir différemment selon les tempéraments. Trois réactions spontanément s'offrent à nous devant cette réalité intolérable du mal qui nous affecte. Il y a tout d'abord la dépression. On croule alors sous l'effet de la souffrance. La souffrance nous submerge et nous enlève nos forces, nous blesse et nous détruit davantage. Il y a ensuite la révolte. C'est la réaction inverse. Je me raidis contre la souffrance et contre le mal que j'entreprends de combattre agressivement. Enfin, il y a la fuite. Je fais tout pour éviter le mal et la souffrance, en fuyant dans le rêve, la drogue, la boisson. Je fais diversion. Je me distrais de toutes les manières. J'endors ma souffrance par la morphine. Je la supprime par des aspirines ou d'autres analgésiques sans rien régler, sans enlever le mal qui la produit. Existe-t-il d'autres issues, surtout quand mon mal est incurable et que ma souffrance est inévitable. Dans la mesure où il m'est impossible de l'éviter, la souffrance m'amène toujours à me poser des questions. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Des questions au départ qui ne sont pas articulées et qui prennent la forme d'un cri, un cri de douleur. Dans le film de Bergman, Fanny et Alexandre, il existe une scène terrible, celle de la mère dont le mari vient de mourir. Et on entend un cri, une plainte déchirante, longue, insoutenable. Quand je crie de douleur, de souffrance, j'exprime deux choses. Je dis que ce que je vis n'a pas de sens. Je ne suis pas fait pour vivre cela. Ce n'est pas bon. Et c'est pour cela que je crie. Et en même temps, j'exprime que je suis fait pour autre chose, pour de la vie et non pas du mal et de la mort. J'affirme en même temps une autre vie. Mes cris sont-ils vains? Cette autre vie qu'ils appellent est-elle une illusion ou une chimère? Dois-je me résoudre à la révolte inutile ou à la désespérance de la dépression ou du divertissement? Quand nous réfléchissons encore plus avant, nous découvrons que nos expériences de souffrance nous introduisent à des peurs et des angoisses plus profondes, celles liées à la perspective de notre mort qui nous apparaît comme le grand mal. Mes expériences de souffrance sont comme des petites morts. Souvent, quand j'apaise mes souffrances physiques, ce sont les souffrances morales et psychologiques qui font surface. Jung disait qu'après 30 ans, toutes les maladies sont d'ordre spirituel, en ce sens qu'elles nous renvoient à la question du sens de notre vie confrontée à la mort. La mort qui se profile toujours derrière toutes nos souffrances. La douleur de voir notre vie nous échapper de toutes parts ne peut pas manquer de nous questionner sur notre condition profonde d'êtres humains, sur notre existence fêlée, sur nos limites, sur la fugacité de toutes les choses, sur la mort. Nous pressentons très bien que notre pensée ne peut pas aller bien loin pour résoudre l'énigme de notre souffrance. On a l'impression, au contraire, que loin de nous consoler, elle ne fait que nous torturer davantage. Que faire? Ces réflexions ne sont pas originales depuis toujours à travers l'histoire. L'être humain s'est interrogé avec plus ou moins de succès sur la souffrance et la mort pour fournir des issues à l'impasse qu'elle pose. Toutes les religions représentent une tentative d'exorciser le mal et la souffrance. La religion judéo-chrétienne, parmi toutes les autres traditions, offre des voies de solution proprement révolutionnaires, celle de l'espérance, celle de la résurrection du Christ. Il faudrait relire ici le livre de Job. Le problème de la souffrance et du mal y est posé sans détour, dans toute son acuité, à propos de la souffrance du juste, de l'innocent. Job est dépouillé de tout et livré impitoyablement à l'expérience du mal. Ses amis essaient de l'aider par des discours qui représentent de fait toutes les sagesses du monde. Ils essaient de lui expliquer pourquoi il souffre, ce qui ne le délivre ni ne le console pas du tout. Ça doit être à cause de tes fautes. Tu souffres maintenant, mais plus tard tu seras récompensé. C'est la faute de tes parents. La souffrance, dans le fond, est bonne pour t'éduquer, te rendre sage. C'est la faute de Dieu. Quand on souffre, de tels discours ne font qu'accabler davantage. Ils ne guérissent pas. Par-delà ses amis importuns, Job va découvrir une issue à sa situation dans la rencontre du Dieu vivant. « Je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant je t'ai rencontré. » Job sait que son libérateur est vivant et qu'il s'avancera vers lui comme un prince. Pour la foi chrétienne, l'amour de Dieu et le mal ne sont pas à mettre sur un pied d'égalité. Ce qui est premier, ce qui est vraiment premier, c'est l'amour créateur, c'est la bénédiction, et non pas le péché et la malédiction qu'il porte avec lui. La difficulté d'aborder le problème du mal tient au fait de son caractère négatif. Il apparaît dans notre expérience comme la privation d'un bien qui nous serait dû, que nous nous attendons de posséder. Il s'agit d'un manque, d'une absence, d'une perte d'intégrité qui est ténèbre et obscurité pour notre pensée. Qui plus est, dans la mesure où nous sommes nous-mêmes problématiques, immergés dans le problème, pour ne pas dire submergés par lui, incapable de nous placer à distance devant lui. Il serait plus juste de parler ici du mystère de la souffrance et du mal, ce qui accentue la difficulté de comprendre et d'apporter une solution au dilemme posé en regard de l'amour de Dieu. Dans le fond, nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas de solution rationnelle au mystère du mal, mais seulement un dépassement dans l'expérience de l'amour divin. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Mettre Dieu en procès pour lui imputer tout le mal du monde et finalement conclure de ce fait à son inexistence apparaît un jeu étrangement incohérent et qui ne règle rien. Le mystère demeure entier. S'il faut assumer les responsabilités personnelles et collectives des souffrances et des misères qui sont notre lot, s'il faut voir pour une bonne part dans la souffrance et les misères les effets de nos immaturités, de nos inconsciences, de nos cupidités, ici encore rien n'est réglé. Le dilemme reste entier. Notre religion chrétienne propose de vaincre la mort par la vie donnée, le mal par le bien rétabli, l'obscurité par la lumière de Pâques. Notre foi nous invite à expérimenter que l'amour est plus fort que tout et qu'il va l'emporter sur les forces destructrices. L'opération est toujours risquée. Il ne s'agit pas de fuir et de nier la terrible réalité de la souffrance, du mal et de la mort pour trouver un refuge confortable et chaleureux dans l'amour de Dieu. Ce serait céder à un optimisme illusoire et désastreux. Il ne s'agit pas non plus, à l'inverse, de s'enfermer jusqu'à la désespérance et à la révolte dans une conscience vive du mal en escamotant l'amour de Dieu. Ce serait tomber dans un pessimisme sans issue. Le réalisme chrétien commande de maintenir le paradoxe de la croix glorieuse, de composer et l'amour et la mort, et de permettre à l'amour d'opérer la victoire sur la mort grâce à la résurrection du Christ. Comment parler de la résurrection du Christ sans que ce soit des mots? Comment faire pour que la résurrection devienne réelle et opérante dans notre vie et dans le monde? Jésus a vaincu la mort, il est vivant, il est ressuscité. C'est le cri primal des chrétiens. Quelqu'un d'entre nous a ouvert une porte que plus personne ne pourra fermer. Il a débloqué l'avenir. C'est la bonne nouvelle, c'est le cœur de l'Évangile. Le Christ a vaincu la mort, alors tout change. La grande question est d'accepter cela, d'accueillir cette réalité immense, d'entrer dans le mystère, de s'y engager. L'espérance chrétienne n'est pas un wishful thinking. J'espère qu'il nous va faire beau demain, je ne le sais pas trop. L'espérance chrétienne, c'est une certitude. À l'horizon, il y a la vie et non la mort. Et la résurrection est déjà en œuvre en nous et dans le monde. Habité par des énergies plus fortes que 1000 soleils, dégagé par le Christ ressuscité, il nous faut combattre en nous-mêmes et chez les autres le mal, la souffrance et la mort, et nous refuser à tout compromis et à toute connivence à leur égard. L'important, c'est de rencontrer le vivant pour être vivifié par lui et poursuivre son œuvre de libération de la vie. « Ce n'est pas par des raisonnements qu'il a plu à Dieu de sauver son peuple, » disait saint Ambroise. Ce texte nous renvoie au plus profond de nous-mêmes, à notre cœur, là où s'opèrent les choix et les engagements les plus importants et les plus décisifs. Choisir passionnément la vie, choisir passionnément l'amour, qui est plus fort que la mort et que la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, comme nous le verrons à la prochaine émission.
Vous venez d'entendre Sous l'Olivier avec Jean-Guy Saint-Arnon, jésuite, prédicateur et auteur.